Bienvenue dans ce troisième épisode sur la vie du bienheureux Pierre Clavery. Les amitiés algériennes de Pierre Clavery ont commencé très simplement avec l'apprentissage de la langue arabe. Sur le banc de l'école des sœurs libanaises, il a côtoyé des Algériens, hommes et femmes, venus s'initier à la langue arabe littéraire. Ensemble, ils en ont mesuré les difficultés. Ensemble, sur les bancs de la classe, ils en ont triomphé peu à peu dans une camaraderie où s'est tissé des liens durables. Lorsqu'à son tour, en sa qualité de directeur du centre diocésain des Glycines, Pierre devient enseignant, il peut nouer aisément de nouvelles relations, non pas de façon superficielle, mais réellement fraternelle. Le centre est un pôle littéraire important pour les Algériens. Il se consacre à l'histoire de l'Algérie et de son patrimoine culturel. Il possède une bibliothèque de recherche rassemblant divers fonds privés constitués au long des 19e et 20e siècles. Il dispose de 90 000 notices et de 1100 titres de revues et périodiques. On y enseigne le latin, l'arabe dialectique et moderne, on y étudie les dialectes arabes et berbères. Bien évidemment, ces rencontres entre érudits ouvrent le dialogue entre enseignants et enseignés, la voie parfaite pour tisser des liens solides. Surtout quand le directeur, toujours disponible, se montre bienveillant, amical, fraternel et toujours prêt à aider. Les étudiants reconnaissent en lui à la fois l'homme d'une immense culture, susceptible de les faire progresser de façon efficace, et l'ami, le frère, avec lequel on peut échanger en toute simplicité. Le témoignage d'un universitaire algérien, recueilli après la mort de Mgr Clavery, montre l'attachement qu'il lui portait, à la fois par l'affection et le respect. Je me souviens que toi, le français, le chrétien dont je me méfiais, tu as écouté ma quête, tu m'as aidé. De longues heures durant, tu m'as piloté patiemment dans votre vaste documentation. Scandale des scandales, tu m'as permis de me repérer dans les écrits en langue arabe. Mon orgueil, je dois le dire, en a pris un sacré coup. Toi, le pied noir, qui as choisi à l'âge de raison notre pays, l'Algérie. Toi qui restais le Pierre, tu as appris à Abdelkader à lire des textes pour moi difficiles en arabe. À l'heure où Henri Tessier succède à Alger au cardinal Duval, Pierre Clavery semble tout désigné pour l'évêché d'Oran. Il y est consacré le 2 octobre 1981. Dès sa prise de fonction, il multiplie les contacts, utilise les locaux de l'église catholique devenue trop grand pour elle, et les transforme en plateforme de rencontres et de services pour les mettre à la disposition de la population. Bibliothèque pour étudiants, atelier de couture pour les femmes, centre d'accueil pour des handicapés. Il y construit véritablement une église au service du peuple musulman. À Oran, la communauté chrétienne est de plus en plus internationale et le nouvel évêque va sillonner son diocèse à la rencontre de tous ceux qui la composent. Coopérant de divers pays, étudiants de l'Afrique noire, chrétiens algériens et bien évidemment les prêtres, religieux et religieuses du diocèse. Son élan le porte vers les musulmans avec lesquels il tisse un bon réseau de relations. Avec passion, il va aller au-devant d'eux, se préoccupant d'abord de créer des liens d'amitié qui le feront désigner par les Algériens d'Oran comme l'évêque des musulmans. Lors de son ordination épiscopale, en 1981 dans la cathédrale d'Oran, il adresse ses belles paroles à ses amis algériens. « Mes frères et amis algériens, je vous dois aussi d'être ce que je suis. Vous aussi, vous m'avez accueilli et porté votre amitié. Je vous dois d'avoir découvert l'Algérie, qui était pourtant mon pays, mais où j'avais vécu en étranger toute ma jeunesse. Avec vous, en apprenant l'arabe, j'ai surtout appris à parler et à comprendre le langage du cœur, celui de l'amitié fraternelle où communient les races et les religions. Là encore, j'ai la faiblesse de croire que cette amitié est plus profonde que nos différences, qu'elle résiste au temps, à la distance, à la séparation. Car je crois que cette amitié vient de Dieu et conduit à Dieu. » Arrêtons-nous un instant sur cette conception de l'amitié. Vraie voie d'accès à Dieu, à ce Dieu tellement plus grand que toutes les images, croyances ou représentations que s'en font les uns et les autres. selon leur naissance, leur culture, leur religion acquise dès l'enfance. Pierre ne se posera jamais en gardien d'une vérité révélée. Il ira toujours chercher la vérité de l'autre dans le respect de sa personne. Ce lien étant créé dans l'amitié, il pourra alors dire des vérités qui fâchent, sans vexer ou blesser ses interlocuteurs de bonne volonté. « Je suis croyant, dit-il. Je crois qu'il y a un Dieu, mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là, ni par Jésus qui me le révèle, ni par les dogmes de ma foi. On ne possède pas la vérité, et j'ai besoin de la vérité des autres. » Une expression chère à Pierre Claverie est celle de s'ajuster à l'autre, ce qui suppose de dépasser ses propres conceptions théologiques pour comprendre cet autre dans sa dimension d'un être aimé de Dieu. Cet élan qui le porte vers ses frères musulmans pose la question de ses rapports avec l'islam. Il est parfaitement conscient des tensions du moment qui recèlent tout un potentiel de violence et qui nuisent à l'indispensable dialogue, lequel pour lui prend racine dans sa foi en Dieu. Le maître mot de ma foi est aujourd'hui le dialogue, non pas tactique ou par opportunisme, mais parce que le dialogue est constitutif de la relation de Dieu aux hommes et des hommes entre eux. Cependant, ce dialogue est bien difficile à instaurer. Pierre évoque ces images de l'autre héritées de l'histoire et des cultures réciproques des peuples en présence. À tout moment, et spécialement dans les périodes de crise, surgissent dans l'imaginaire et le discours de l'Occident les guerriers d'Allah et les Sarrasins ou les Maures et les Turcs qui envahissent l'Europe, tandis que le musulman rappelle sans cesse les croisades et le colonialisme. Comment agir devant de telles difficultés ? Une vraie rencontre entre chrétiens et musulmans ne peut se vivre que dans la reconnaissance des différences réciproques. Et cela suppose une grande humilité, car il ne s'agit plus d'imposer sa foi à l'autre, mais d'aimer cet autre pour recevoir de lui une part de sa vérité. À propos de cet autre musulman, Pierre déclare « J'admets qu'il peut détenir une part de vérité qui me manque et sans laquelle ma propre quête de vérité ne peut aboutir totalement. » Pour Pierre, l'obstacle majeur à tout dialogue réside dans la volonté de dominer l'autre. Il déclare « Je dois convenir que l'autre est un sujet et non un objet à posséder, à annexer, à écarter. La domination de l'autre, son exploitation ou son exclusion, empêche évidemment toute relation. » Monseigneur Claverie va défendre sa conception du dialogue entre chrétiens et musulmans lors des rencontres et des débats qu'il anime à La Haye, en 1986, à la Mosquée de Paris, en 1988, à Marseille et à Bastia, en 1996. Il y insiste sur la nécessité de créer des liens personnels et amicaux avant tout dialogue. En 1987, il accepte de faire partie du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Avec autorité, il n'hésite pas à intervenir chaque fois que musulmans ou chrétiens manquent à ce nécessaire respect de l'autre. Ainsi, lorsque la télévision algérienne organise, 3 soirées de suite, un faux débat entre un théologien et prédicateur musulman réputé à l'époque et un télé-évangéliste américain, le musulman apparaît vainqueur après avoir ridiculisé son adversaire. Pierre n'hésite pas à intervenir. Il s'oppose haut et fort à de tels propos, et de se dire désorienté par certains discours musulmans dont les médias n'hésitent pas à faire l'écho. Quant à ce dialogue, si difficile à instaurer, lorsqu'il s'établit enfin, il demeure toutefois extrêmement fragile, et Monseigneur Claverie, qui a déployé tant de patience à le créer, va tout mettre en œuvre pour le préserver, le nourrir, le garder vivant. Pour cela, il faut du temps. Quand en octobre 1977, il apprend que l'ordre dominicain le nomme directeur de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, il refuse sa mutation en évoquant la valeur des liens interpersonnels qu'il a créés et que son absence risquerait de faire disparaître. Il répond donc à ses supérieurs. « J'ai trouvé un peu rude toutes vos planifications. Je suis depuis 10 ans dans un pays où les relations personnelles sont notre seule force, car nous n'avons plus d'institution. Et Dieu sait que ces relations sont longues à établir et fragiles. Elles réclament durée, patience et compte beaucoup pour nos amis algériens. Rester en Algérie, quelles que soient les difficultés, les risques qui l'attendent, ou plutôt à cause d'eux, telle est la volonté de Pierre Claverie. Et ce choix se nourrit de sa spiritualité. Quand il évoque Jésus sur la croix, bras écartés pour rassembler les enfants dispersés par le péché, il le voit élevé sur les lignes de fracture nées du péché. Pour lui, l'Église n'est pas pleinement elle-même que lorsqu'elle est présente aux ruptures qui crucifient l'humanité dans sa chair et dans son unité. Pierre Claverie écrit « En Algérie, nous sommes sur l'une de ces lignes sismiques qui traversent le monde, islam, occident, nord, sud, riche, pauvre. Nous sommes bien à notre place, car c'est dans ce lieu seulement que peut s'entrevoir la lumière de la résurrection, et avec elle, l'espérance d'un renouvellement de notre monde. » Évêque, en chemin vers la sainteté, Pierre est un pasteur, une sentinelle qui reste prudente, debout pour mieux protéger les autres. Il n'a pas peur de parler, de dire la vérité même si elle dérange. Il n'hésite pas à dénoncer les erreurs de l'Église au cours de son histoire, non pas en accusateur, mais par amour pour elle. Au prix de sa vie, il dénonce la violence dès le début de la guerre civile en Algérie, affirmant qu'il ne peut pas se taire dès lors que, je cite, « aucune idéologie, aucun projet politique » ne peuvent justifier les morts quotidiennes. Avec lucidité, il critique le Front National du Salut, FIS, lors d'une conférence, ce qui l'oblige à rester reclus dans son évêché pour éviter un attentat. Sa conception évangélique de la mission de l'Église, la voit dans le monde, avec Jésus, liée à l'humanité souffrante. Elle n'est pas là pour conquérir le monde, mais pour rester proche de la croix. L'univers spirituel de Pierre est celui d'un homme qui va donner sa vie, non pas par accident, mais parce que ce don s'inscrit dans le cheminement de tout chrétien. Pierre écrit « La valeur de ma vie dépend de ma capacité à la donner. » Il commente « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, car il n'aura pas été capable de sortir de lui-même. » Au début des années 1990, l'Algérie est en effet entrée dans la période de violence qui fera entre 150 000 et 200 000 victimes. Il faut attendre 1997 pour que l'AIS, Armée islamique du salut, déclare un cessez-le-feu. Le calme va revenir progressivement à partir de 1999, quand l'élection d'un nouveau président, Abdelaziz Bouteflika, est suivi d'une loi amnistiant la plupart des combattants, ce qui génère le retour à un calme relatif. Le GIA, pour sa part, disparaîtra en 2002. Pierre Claverie assiste à tous ces événements. Dès 1992, il analyse la situation et se montre très pessimiste quant à l'avenir de la démocratie en Algérie. Mais il dit « Je pense qu'il est toujours possible de construire quelque chose ensemble. Beaucoup de musulmans, après le choc des élections, sont en train de repenser leur religion. Les évêques d'Algérie sont alors au plus près de leur communauté. Il faut aider à rapatrier ceux qui ne supportent pas les événements en cours et aider spirituellement ceux qui font le choix de rester. Monseigneur Claverie est en Algérie une personnalité en vue. Hardiment, il n'hésite pas à s'exprimer dans les médias de façon parfois imprudente. Parce qu'il est écouté, il estime que c'est son devoir de parler. Mais lorsqu'il s'exprime en chair, il se recentre sur la mission des religieux et religieuses en ces temps difficiles. Être disponible pour aimer, quel qu'en soit le prix, telle est l'attitude du missionnaire donné à Dieu. Lors de son intronisation comme évêque d'Oran, Pierre Claverie s'exprime ainsi. Le disciple envoyé par le Christ est l'homme dans sa simple humanité, l'homme léger, disponible, dépouillé de tout ce qui l'encombre et l'alourdit. L'homme qu'on ne confond pas avec son argent, ses diplômes, ses décorations. Disponible pour aimer, au prix de ce qu'il a de plus précieux, sa vie. Les 19 martyrs d'Algérie ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux, leur vie. Aujourd'hui, en oraison, prions pour tous les consacrés, hommes et femmes, qui risquent leur vie au quotidien par amour pour leurs prochains. Prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir écouté avec nous ce troisième épisode sur la vie de bienheureux Pierre Clavry. Rejoignez-nous dans le dernier épisode.